Chapitre 11. Les bottines vernies. Un garçon m'a d'ailleurs à ce moment annoncé que les médecins étaient arrivés. On avait simplement étendu M. Castanier sur son lit, habillé comme il l'était quand la mort le frappa. Avant qu'on y touchât davantage, Martin Dumas s'approcha du corps avec M. de Capestin et le chef de la sûreté. « Veuillez, dit-il, selon son habitude, les cils sont collés, la figure porte encore les marqures des larmes et pour le plastron de la chemise, on en trouve quelques traces. Le brillant américain du linge est terni, comme il arrive quand il pleut sur un col ou sur des manchettes. Oui, M. Castanier a en effet pleuré. » Martin Dumas prit la main droite du mort, écarta le pouce et le montra au magistrat. Il porte bien, ainsi que l'index et les ongles des autres doigts, des bavures d'encre faites par les plumes en se cassant. Mais en effet, mais le pouce, ni dans l'ongle ni dans les plis, ne garde la moindre trace de sang. D'ailleurs, il en est beaucoup plus petit que celui dont nous avons retrouvé l'empreinte. Oui, c'est exact, la coïncidence n'est pas possible. Le père ne peut être soupçonné en aucune façon d'avoir étranglé sa fille. Oui, il existe donc absolument un autre assassin. On passa dans la chambre de la jeune fille assassinée, dont par humanité on pria les parents de s'éloigner. De même que pour le banquier, on avait simplement étendu l'Irma Castanier sur son lit. Elle portait un gracieux costume d'intérieur, mais à présent fripée et déchirée, témoignant de la lutte que la malheureuse avait eu à souvenir contre son assassin. Et son corps raidi conservait les stigmates suprêmes de l'agonie atroce. Tout d'abord, Martin Dumas prit une à une les mains de la morte et les examina. Il espérait trouver dans les ongles un débris de peau, de chair, d'étoffe arrachée au cours de la lutte. Un rien, comme ceux qui souvent lui fournirent une précieuse indication. Il ne découvrit rien. Alors il regarda le cou de la jeune fille. Les marques de la strangulation étaient les plus apparentes. L'assassin serra tellement le cou qu'il en brisa, écrasa les cartilages de la trachée de la glotte. « Voilà, dit Martin Dumas, l'écorchure qui a taché le pouce de l'assassin et nous a permis de retrouver l'empreinte sanglante. » En même temps, il passait doucement le doigt à la base du cou et frottait son doigt ensuite sur une feuille de papier qu'il examina par transparence. « C'est bien cela, » dit-il. Mademoiselle Castanier portait un cold crime quelconque dont le pouce de son meurtrier se trouva enduit. Voilà l'explication de l'auréole qui entoure la tache rouge du pouce. Il dit au chef de la sûreté, « Bien, j'ai obtenu ce que je voulais savoir. Il ne me reste plus maintenant qu'à suivre votre enquête, à écouter vos interrogatoires. » Comme les magistrats allaient se retirer dans la chambre de Mademoiselle Castanier, entrèrent une jeune fille en larmes, Jane, la sœur cadette, et un jeune homme aux yeux également rougis. « Eh bien, messieurs, » demanda le nouveau venu, « votre enquête révèle-t-elle quelque chose sur ce drame atroce? Êtes-vous sur la voie? Pressentez-vous que vous mettrez la main sur le coupable et vous vengerez de ce deuil abominable qui nous frappe avec une telle cruauté ?» Le chef de la sûreté le présenta au juge d'instruction. Le marquis Primo de Carmine Santucci, le fiancé de Mademoiselle Irma, l'infortunée victime. Cependant que M. de Capestin l'assurait de ses sentiments de condoléance, Le marquis sanglotait dans un fin mouchoir. « Ma vie est brisée, mon bonheur est mort avec ma chère fiancée. » La jeune fille qui l'accompagnait, charmante de grâce et délicieuse dans la douleur, était allée se mettre à genoux devant le flis de sa sœur. « Irma, ma chère Irma, » murmura-t-elle. Et elle s'abîma dans la tristesse et dans les larmes. « Oh, monsieur, reprit le marquis de Carmine Santucci, mais je donnerais ma fortune, la moitié de ma vie, pour que cette malheureuse jeune fille respirât encore. » Le juge d'instruction, quand le marquis se fut encore essuyé les yeux, lui dit « Monsieur, nous aurons besoin bientôt de votre concours pour les interrogatoires. Je surmonterai ma douleur, je tâcherai de mettre en ordre ma pensée. » Mais il est bouleversé par ce coup terrible, enfin, de seconder autant qu'il me sera possible votre mission sacrée. La justice, monsieur, vous en sera très reconnaissante. Pendant que monsieur de Capestin et monsieur di Carmine Santucci parlaient, Martin Numard s'était assis, comme sans intention aucune, sur une chaise au fond de la pièce derrière le marquis. Je suivais son manège qui n'éveillait l'attention de personne. Au cours d'une enquête, mon ami ne faisait pas un geste, pas un mouvement, ne jetait pas un regard qui n'eût pas un but, une raison précise, qui n'entra dans son action méticuleuse, pour ainsi dire, mathématique d'investigation. Martin Dumas semblait sur une chaise, dans un coin sombre, tranquillement assis, sans autre intention, sans autre but que de se reposer un peu. Ses yeux se posaient sur les fleurs du tapis clair de la chambre de la jeune fille. Il suivait le gracieux dessin, machinalement, partant de la rosace sous les pieds de sa chaise et formant une guirlande qui se prolongeait au milieu de la pièce, jusqu'à l'endroit où se tenaient M. Ramarc, le juge d'instruction, et le marquis de Carmine Santucci. Tout à coup, j'éprouvai la sensation d'un choc et ne pus retenir un frisson. Les yeux de Martin Dumas se tenaient maintenant sur les bottines du fiancé de la jeune morte. Et je vis en même temps que lui que le marquis portait les bottines vernies, absolument neuves, car le dessous, les marbrures et les vernis des semelles du creux n'étaient point éraillés comme ils devaient forcément l'être si le marquis avait déjà marché avec elles. Les bottines semblaient sortir de chez le marchand. Malgré moi, j'eus un léger frissonnement à cette constatation. Martin Dumas, qui étudiait encore les bottines du marquis, ne put apercevoir mon mouvement de surprise, mais l'essence était, chez cet homme si remarquablement organisé et à ce point développé, qu'il le devina, le pressentit. Il eut au front un pli profond de mécontentement. Puis il se leva, quitta son poste d'observation, où j'étais involontairement venu le troubler, avec ce même air de parfaite indifférence qui donnait si bien le change à tous ceux ne connaissant pas, comme moi, sa façon d'être.